Ceux qui vivent de la terre, qui la cultivent, qui sèment et récoltent, dépendent presque entièrement du bon vouloir de la nature et donc ils s'intéressent de près à la météo. Une forte grêle, au mauvais moment, et les céréales et les fruits sont déchiquetés, surtout les raisins. Heureusement, ces averses dévastatrices sont souvent isolées. Par contre, une sécheresse prolongée est un fléau encore pire, parce qu'il sape le moral de l'agriculteur qui sait que si le ciel reste fermé trop longtemps, tous ses champs seront brûlés, et c'est la totalité des récoltes qui périt sur pied. Or, dans le chapitre 14 de l'Apocalypse, il est justement question d'une moisson qui est sèche. Je continue de le lire. Puis un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui siégeait sur la nuée. « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure est venue de moissonner, et la moisson de la terre est desséchée. » C'est le quatrième ange qui apparaît dans ce chapitre. Alors que les trois premiers annoncent la venue du jugement, celui-ci sort du temple céleste. Il se tient devant le trône de la majesté divine. Il parle d'une voix forte qui communique l'urgence et l'autorité de l'Éternel. C'est la dernière fois que Jésus est appelé fils d'homme. Cependant, il est quelque peu étrange qu'il puisse recevoir l'ordre d'un ange, surtout que, à partir d'ici, Jésus est le Seigneur de gloire et non plus le fils de l'homme. Admettons quand même qu'il en est ainsi, et l'ange transmet donc à Dieu, le Fils, de la part de Dieu le Père, que l'heure est venue d'exécuter les derniers jugements. Il s'agit des coupes de la colère de Dieu qui sont pleines à rebord et prêtes à être déversées sur la terre. C'est le début de l'accomplissement d'un décret qu'on trouve dans le second psaume, décret promulgué par l'Éternel qui dit à son Fils « Demande-moi. Que veux-tu ? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre et le monde jusqu'en ses confins lointains. Sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras. Comme des vases d'argile, tu les briseras. » Dieu le Fils commence donc par assumer les pouvoirs que le Père a remis entre ses mains. En lançant sa faucille de moissonneur, le Seigneur accomplit de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament. Oui, mais le texte que dit que cette moisson est foutue, car entièrement desséchée, ce qui veut dire qu'elle est tout juste bonne à être arrachée et brûlée. Ceux qui vont être ainsi moissonnés sont les impies qui portent la marque de la bête. Cette mauvaise récolte a été annoncée par Jésus dans une parabole sur la fin des temps. Dans l'Évangile, selon Matthieu, on lit « Comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui incitent les autres à pécher et ceux qui font le mal. » Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Je continue le texte. Celui qui siégeait sur la nuée lança sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Le jugement est exécuté sur le champ, sans tambour, ni sonnerie de trompette non plus. La simplicité, la sobriété et la brièveté de ces petites phrases sont brutales. Elles font penser au tranchant du fil d'une épée. Les détails horribles seront révélés plus tard dans le chapitre 16. Je continue le texte. Un autre ange sortit du sanctuaire céleste, tenant lui aussi une faucille bien tranchante. L'apparition de ce cinquième ange est due à un changement de décor, car on passe de la première phase du dernier jugement à la seconde phase, de la moisson aux vendanges, du jugement des coupes à la bataille d'Armageddon. Le cinquième ange sort donc du sanctuaire céleste, tenant à la main comme Jésus précédemment, une faucille bien tranchante. Mais lui, au lieu de la moisson, c'est la vendange de raisins bien mûre et de premier choix qu'il va faire, ce qui correspond à la campagne d'Armageddon, qui aura lieu à la fin des 7 années de la tribulation. Tout au long de la vision de Jean, les anges jouent un rôle de premier plan. Ils font venir les 4 cavaliers et font sonner les trompettes. Ils livrent bataille contre Satan et ses démons et les jettent hors des cieux sur la terre. Et ici, ils exécutent les jugements des 7 coupes de la colère de Dieu. Puis c'est encore un ange qui convoquera les oiseaux du ciel pour festoyer sur les corps des soldats morts pendant la bataille d'Armageddon. Et c'est encore un ange qui enchaînera Satan et l'enfermera dans l'abîme pendant les 1000 ans du règne de Jésus-Christ. Je continue le texte. Un autre ange sortit du sanctuaire céleste, tenant lui aussi une faucille bien tranchante. Puis un autre ange encore, l'ange préposé au feu, quitta l'autel et cria d'une voix forte à celui qui tenait la faucille tranchante. « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. » Décidément, et comme je l'ai dit, c'est le défilé des êtres célestes. Mais comme leur nom ne nous est pas communiqué, on ne sait jamais qui fait quoi. Si on lit ces versets l'un après l'autre, ça, à la va-vite, on est rapidement perdu. Mais si on veut suivre pas à pas les événements que rapporte la vision de Jean, et surtout les comportements, il faut aller très doucement. Ici donc apparaît un 6e ange. Comme les précédents, il est anonyme. Par contre, on sait que son rôle est d'être préposé au feu. Littéralement, le texte dit qu'il sort du feu. Car apparemment, c'est là qu'est sa demeure. Ça nous paraît peut-être étrange, mais on a déjà vu des anges préposés au vent, puisque dans le chapitre 7 du livre, le texte dit « Il retenait les 4 vents de la terre pour qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » Et puis, un peu plus loin dans le livre, il est question de l'ange qui a autorité sur les eaux. Le monde angélique est dans une toute autre dimension que la nôtre. C'est une réalité qui dépasse la fiction, mais qui existe réellement, et où les lois et règles de fonctionnement sont totalement différentes de l'univers physique que nous connaissons et dans lequel nous fonctionnons avec nos sens. L'autel du sort, le 6e ange préposé au feu, est lié au jugement des coupes. Ce qui fait que plusieurs commentateurs pensent que c'est l'original de l'autel des holocaustes que Moïse a fait construire sur terre. C'est sur cet autel céleste que Jésus a eu faire son sang après être monté aux cieux. Il a déjà été question de cet autel céleste au moment de l'ouverture du 5e sceau, quand Jean dit « Je vis ». Sous l'autel, les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Cependant, après l'ouverture des 7 sceaux et avant le jugement des trompettes, un second autel nous a été présenté. Il s'agit du pendant céleste de l'autel d'or ou autel des parfums qui se trouve dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le lieu saint du temple de Jérusalem. Avant le jugement des trompettes, le texte dit « Un ange prit l'encensoir, le remplit de braises ardentes prises sur l'autel et le lança sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. » Comme cet autel d'or céleste a déjà servi de plateforme de jugement, tout porte à penser qu'ici, il s'agit de ce même autel. Et ce 6e ange qui sort de l'autel signifie que le moment est venu où les prières des martyrs vont être pleinement exaucées, c'est-à-dire que l'empire de l'Antichrist va être détruit et tous les impies, le dragon et la deuxième bête en particulier, vont être jugés une fois pour toutes. Dès que ce sixième ange sort du feu, il ordonne au cinquième ange « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. » Littéralement, juste à point pour être récoltée, c'est-à-dire bien juteuse. En d'autres mots, les habitants de la terre sont mûrs pour la deuxième phase du jugement final, qui correspond à la campagne d'Armageddon. Je finis maintenant de lire le chapitre 14. L'ange lança sa faucille sur la terre et vendangea la vigne de la terre. Il versa sa récolte dans le grand pressoir de la colère de Dieu. On écrasa les raisins dans le pressoir, hors de la ville. Le sang en sortit si abondamment qu'il écabloussa les chevaux jusqu'à leur mort sur une étendue de 1600 stades. Dès que le cinquième ange lance sa faucille sur la terre, le jugement tombe. Tous les impies qui ont échappé à la première phase du jugement final, c'est-à-dire aux sept coupes de la colère de Dieu, sont vendangés comme des grappes de raisin, puis versés dans le grand pressoir de la colère de Dieu. Le prophète Joël écrit « Bandissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein et les cuves débordent, car grande est leur méchanceté. » Dans l'Antiquité, un pressoir à raisin consiste en deux bassins de pierre surélevés et reliés entre eux par une gouttière. On foule les grappes à pieds nus dans le plus grand des deux bassins, et par gravité, le jus coule dans le plus petit. Il est évidemment impossible d'écraser le raisin sans se tacher un peu de partout. Mais ici, dans le grand pressoir de la colère de Dieu, ce n'est pas du jus de raisin qui éclabousse, mais du sang. Les prophètes annoncent ce jugement, surtout Ésaïe, qui écrit « Approchez, ô nations, pour écouter, vous peuples, prêtez attention, oui, que la terre entière et tout ce qui l'emplit, oui, que le monde et tout ce qu'il produit se mettent à l'écoute. Car l'Éternel est en colère contre l'ensemble des nations. Il est furieux contre toutes leurs troupes, il les voue à lui-même. Il les livre au massacre, leurs victimes seront abandonnées, l'odeur de leur cadavre se répandra, leur sang ruisselera sur les montagnes. L'épée de l'Éternel est saturée de sang et couverte de graisse, car pour l'Éternel est prévu un sacrifice dans Botsra et un grand carnage à Édom. Qui donc est-il, celui qui arrive d'Édom, qui nous vient de Botslara, en habit écarlate, drapé avec splendeur, et qui s'avance fièrement dans l'éclat de sa force? C'est moi, dit l'Éternel, qui parle avec justice et qui ai le pouvoir de vous sauver. Pourquoi tes vêtements sont-ils tachés de rouge? Et pourquoi tes habits ressemblent-ils à ceux des vendangeurs qui foulent au pressoir? C'est que j'ai été seul à fouler la cuvée, et nul parmi les peuples n'a été avec moi. Oui, j'ai foulé les peuples dans ma colère, je les ai piétinés dans mon indignation. Leur sang a rejailli sur mes habits, j'ai taché tous mes vêtements. J'avais fixé le jour de la rétribution, elle est venue, l'année de la libération de tous les miens. J'ai regardé partout, personne pour m'aider. Je me suis étonné, il n'y a donc personne pour me prêter main forte. Mais mon bras m'a sauvé et mon indignation a été mon soutien. J'ai écrasé les peuples dans ma colère, je les ai enivrés dans ma fureur et j'ai fait couler leur sang par terre. Dans la prophétie d'Ésaïe, le commentateur imaginaire demande à l'Éternel s'il a taché ses beaux vêtements en foulant du raisin. C'est une façon d'exprimer son étonnement devant la sévérité de ce jugement. La première fois que Jésus est venu, il a versé son sang pour tous les hommes, de tous les temps, mais comme l'immense majorité des habitants de la terre le rejettent. Lui, ainsi que son sacrifice, ses impies vont être jugés, foulés par le Seigneur dans une immense cuve, une plaine appelée Armageddon. Et c'est leur sang qui sera versé. Plus loin dans le livre, Jean nous donne la perspective céleste de cette bataille. Il écrit « Je vis le ciel ouvert. Et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec équité. Il combat pour la justice. Il est vêtu de manteaux trempés de sang. Il s'appelle la Parole de Dieu. » Les armées célestes vêtues de lin blanc et pur le suivent sur des chevaux blancs. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. C'est lui qui sera leur berger, car il les dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre « Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Je vis la bête et les rois de la terre. Ils avaient rassemblé leur armée pour combattre le cavalier et son armée. La bête fut capturée et, avec elle, le faux prophète qui avait accompli des signes miraculeux pour le compte de la bête. Par ses miracles, il avait trompé les hommes qui portaient la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Ils furent tous deux jetés à vif dans l'étang ardent de feu et de soufre. Les autres hommes furent tués par l'épée qui sort de la bouche du cavalier, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. La cuvée de raisin est foulée, hors de la ville, dit Jean, parce que Jérusalem est protégée. L'épicentre de cette campagne meurtrière se situe dans la plaine d'Armageddon, à 95 kilomètres au nord de Jérusalem. C'est un gigantesque bain de sang, le carnage le plus horrible de l'histoire, par la quantité de sang qui est répandue en très peu de temps. Alors que pendant la guerre de 14-18, il meurt en moyenne 1000 soldats par jour dans chaque camp. Ici, ce seront des millions en quelques jours. Il y a tellement de vastes quantités de sang partout qui éclaboussent les chevaux jusqu'au harnais. Maintenant, on peut se demander si c'est une image ou de véritables chevaux. La plupart des commentateurs, même ceux qui adoptent l'interprétation littérale, pensent qu'il s'agit d'une hyperbole, une façon de parler, et ces chevaux pourraient représenter des chars d'assaut, par exemple. Mais d'un autre côté, il n'est pas impossible que de vrais chevaux soient engagés dans cette guerre en même temps que des véhicules blindés, car on ne sait pas quelle est la situation qui prévaudra à cette époque, surtout à la lumière des destructions sans précédent qui ont eu lieu sur toute la terre. La bataille principale s'étend sur 1600 stades, dit Jean, soit environ 290 kilomètres, ce qui est la distance du territoire d'Israël qui va de la ville de Dante à l'extrême nord d'Israël jusqu'à la ville de Beersheba tout au sud. Mais ce passage ne veut pas dire que la campagne d'Armageddon est limitée à la Palestine, car souvent les auteurs sacrés s'intéressent aux événements qui ont lieu dans leur patrie et passent sous silence ceux d'or Israël. Par exemple, dans la prophétie qui mentionne que l'Éternel était seul à fouler la cuvée, Ésaïe mentionne Botsra, une ville de l'ancien royaume d'Édom, à 32 kilomètres au sud-est de la mer Morte. Et Daniel, qui prophétise la campagne d'Armageddon, cite l'Égypte, le Grand Nord et l'Orient. Armageddon est donc une guerre mondiale. Nous arrivons au chapitre 15, le plus court du livre de l'Apocalypse. Il sert d'introduction à la vision des sept coupes de la colère de Dieu. Ces coupes sont contenues dans la septième trompette, qui est le troisième malheur annoncé par l'aigle qui planait au zénith et qui s'est écrié d'une voix forte « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre !» quand retentiront les trois trompettes que les trois derniers anges vont faire sonner. C'est cette coupe de la colère de Dieu constitue la troisième et dernière série de jugements. Elle fait suite aux sept sceaux et aux six premières trompettes. Ces coupes qui vont être déversées sur terre s'appellent aussi la moisson de la terre, qui est la première phase du grand jugement final. La deuxième phase étant la campagne d'Armageddon. C'est un peu difficile de s'y retrouver. J'en conviens. Une certaine confusion est due au fait que dans le livre de l'Apocalypse, Jean décrit une série de jugements qui est sur le point d'arriver, puis il ouvre une autre fenêtre de sa vision. Ensuite, il revient sur ce qu'il a dit et ajoute quelques détails. Cette méthode didactique n'est pas toujours facile à suivre, et pourtant, elle est fréquente dans les Écritures. Par exemple, dès le premier chapitre de la Genèse, Moïse raconte la création du monde, puis, au chapitre 2, le Saint-Esprit revient sur la création de l'homme et donne beaucoup de détails supplémentaires. Plus loin dans le livre de l'Exode, on a le compte rendu de la loi de Moïse, puis 40 ans plus tard, dans le livre du Deutéronome, nous est donné son interprétation et surtout, comment l'appliquer dans la vie de tous les jours. Tout comme c'est le cas avant les jugements des sceaux et celui des trompettes, le chapitre 15 qui précède le jugement des coupes ouvre une fenêtre sur une scène céleste. Je commence de lire le chapitre 15. Puis je vis dans le ciel un autre signe grandiose qui me remplit d'étonnement. Cet ange portant sept fléaux, les sept derniers par lesquels se manifeste la colère de Dieu. C'est le troisième signe grandiose que j'en vois. Les deux autres sont relatés dans le chapitre 12. Le premier est une femme qui avait pour vêtement le soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et le second signe est un dragon énorme couleur de feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Chacune de ces 7 têtes portait un diadème. Comme les deux précédents, ce troisième signe est très important car il introduit les jugements des coupes qui vont frapper les êtres humains qui sont encore vivants. Par un feu nourri, une suite ininterrompue de salves genre orgue de Staline. Cet ange portant cette fléau. Le mot fléau signifie coup ou plaie. Il est appliqué 4 fois à l'apôtre Paul dans le livre des Actes et dans la seconde épître aux Corinthiens. C'est aussi le mot qui est utilisé pour la blessure mortelle que subit la première bête, c'est-à-dire l'Antéchrist. Les 7 coups de la colère de Dieu vont donc être des coups portés directement aux habitants de la terre. Ces coups sont les 7 derniers fléaux, ce qui sous-entend que les 2 autres séries, c'est-à-dire les sceaux et les trompettes, sont aussi des fléaux, et que, dans l'ordre chronologique des jugements, elles ont effectivement précédé les coupes. Ce qui est également sûr et certain est que Dieu, qui jusqu'à l'époque de la tribulation contient sa colère avec patience, va maintenant lui donner libre cours contre les habitants de la terre.